Bonjour, vous écoutez Le Pouvoir d'Oser. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de femmes courageuses, de femmes résilientes, de femmes qui font bouger les lignes au quotidien. Celles que vous allez écouter ont changé de vie, se sont lancées un défi ou se battent pour vivre leur rêve d'enfant. Et si ces femmes ont accepté de se raconter, c'est avant tout pour transmettre à d'autres la petite étincelle qui, un jour, leur a permis de se dépasser, le pouvoir d'oser.
Bonjour à tous, je suis Laure Betch, la cofondatrice de Falmade, j'ai 29 ans. Donc en 2018, avec Camille Legal, mon associée, on a créé Falmade, donc une entreprise qui aide les marques à améliorer leur impact à la fois social et environnemental et à progresser sur la connaissance de leurs fournisseurs. Et donc je vais vous raconter comment est-ce qu'avec mon associée, on a eu le pouvoir d'oser.
Bonjour Laure, merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode du Pouvoir d'oser. Pour commencer et pour mieux te comprendre, peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'es orientée vers l'univers de la mode ?
Alors le monde du textile, c'est un monde que je côtoie depuis très jeune, puisque avec ma grand-mère qui a une boutique de prêt-à-porter à Royan, d'ailleurs qu'elle tient toujours à 86 ans, c'est une femme très inspirante pour moi, nous allions au Sentier et à Aubervilliers faire les achats pour sa boutique. Donc c'était une boutique avec à la fois du textile et de maillots de bain. Donc ça a été pour moi les premiers pas, les premières fois où j'allais me mettre dans la peau d'une cliente et ensuite travailler sur les chiffres, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et en fonction de ça, adapter nos achats. Des choses que j'ai toujours aimé faire en famille. C'est aussi une histoire d'amitié, puisque ensuite avec Camille, donc on était ensemble au lycée, on a fait un projet sur les textiles synthétiques, et donc on a développé du nylon synthétique. Et c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble. Donc à cette époque, on avait même pas 18 ans. Donc c'est le début du fil de notre aventure.
Mais avant de vous retrouver avec Camille Legal pour la création de Falmade, vous démarrez chacune des carrières solo, n'est-ce pas ?
Donc ensuite, suite à cette expérience-là, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai été commerciale pour une usine en Chine. J'allais vendre des produits, des vêtements pour certaines marques. Donc ça a toujours été aussi un aspect de ma personnalité, la partie commerciale. Donc je devais aller vendre un maximum de vêtements faits par cette usine-là. Donc ce que j'aimais beaucoup, c'était d'aller promouvoir des textiles particuliers pour me mettre dans la peau d'une marque spécifique, d'aller négocier des prix, d'aller m'assurer ensuite que le produit arrive dans les temps. Mais ce qui m'avait manqué, justement, c'était cet aspect un peu plus créatif. C'est dans ce sens-là que je me suis orientée dans un deuxième temps chez Maison Kitsune, où j'ai été chef de produit. Et donc, j'ai pu vraiment comprendre comment est-ce qu'on développe un vêtement de A à Z, être au plus proche des usines. Donc là, c'est la première fois où j'ai pu aller au Portugal. Je me rappelle faire ma première vérification de qualité de production de chaussures, regarder les petits défauts qu'il pouvait y avoir, faire en sorte justement d'améliorer ces défauts. Et j'ai vraiment aimé aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la façon dont on fabrique un vêtement, que ce soit tant dans la relation qu'on peut avoir avec les stylistes que celle qu'on peut avoir ensuite avec les usines et finalement tous ceux qui vont produire un vêtement. Donc deuxième expérience très enrichissante. Et ensuite, je suis passée dans le groupe H&M, donc la marque Another Stories. Donc là, j'étais développeuse et acheteuse sur une gamme de sacs. Donc c'est une ampleur complètement différente. Et j'ai appris la façon dont fonctionne une grosse entreprise, tous les process qu'il y a derrière. Et en fait, mon rôle, c'était vraiment de faire en sorte que cette gamme de sacs et de maroquinerie soit à des prix justes, que les fonctionnalités produits soient les bonnes. Parce qu'il se trouve qu'on travaillait avec une centrale d'achat et que cette centrale d'achat ensuite était en charge de trouver les meilleures solutions pour les produits qui étaient designés par les équipes du siège.
Et au hasard de tes voyages professionnels, il va y avoir un déclic quand tu retrouves ton amie d'enfance, Camille, qui travaille à Hong Kong pour une autre marque.
En fait, notre rôle, c'était de développer toujours plus de collections et des collections qui allaient toujours mieux se vendre, mais donc pas de s'assurer des conditions qu'il y avait derrière justement toutes ces maillons de la chaîne. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a réalisé à deux avec mon associée au moment où elle, il se trouve qu'elle était également à Hong Kong. Et donc, comme je vous le disais au début, on était amis depuis toujours. Et donc, forcément, moi voyageant à Hong Kong, elle étant habitant à Hong Kong, on en a beaucoup discuté et on s'est dit, en fait, finalement, il faut qu'on arrive à trouver plus de sens à notre métier. Qu'est-ce qu'on pourrait implémenter au sein de notre job respectif pour faire changer les choses? Et finalement, on avait toutes les deux une fibre entrepreneuriale très forte. Et on s'est dit, est-ce qu'il faudrait pas que pour aider le plus grand nombre de marques possible, on soit pas capable de développer une solution qui facilite cette transition? Puisqu'un des problèmes de l'industrie textile, c'est l'opacité de cette chaîne de production, le nombre d'acteurs qu'il y a. C'est un produit qui est très transformé. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a développé Fairly Made. C'est pour promouvoir des outils B2B pour que les marques puissent prendre conscience de leurs impacts pour les améliorer. Donc, je dirais que c'était vraiment à ce moment-là, autour d'un café, où finalement, il y a plein de choses qui se sont... on a parlé d'énormément de choses et on s'est dit, en fait, il faudrait développer une solution comme ça. Donc au démarrage, on avait vraiment une conviction qui était assez légère, hein, mais on s'est dit ce serait génial d'avoir ça. Nous, en tant que marque, on aimerait beaucoup travailler avec ce genre de partenaire. Et je me rappelle d'un moment, ensuite moi je suis rentrée à Paris, continuer mon job et Camille est restée à Hong Kong. Il se trouve que j'avais oublié un livre sur place et donc Camille m'a renvoyé ce livre et à l'intérieur elle m'a écrit un mot en me disant t'imagines et si c'était possible. Et si on se lançait vraiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle que j'ai lu ce mot, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais en fait, il y a très peu de chances que ça se fasse. Et récemment, je l'ai retrouvé. Mes parents m'ont redonné ce livre et j'ai retrouvé ce mot. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Maintenant, on est 25 et on a une entreprise qui fonctionne et des équipes ultra motivées. Et... Donc en fait voilà, on a eu un alignement aussi des planètes, on a eu de la chance. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué d'y croire en fait. Ça paraît des montagnes de lancer une entreprise. Et donc nous, il se trouve que au démarrage, on a commencé, c'était soirée week-end. On s'appelait pour se dire comment est-ce que t'imagines qu'on pourrait vraiment lancer ce genre de service? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De quoi t'aurais besoin toi en tant que marque? Et donc petit à petit, on a commencé comme ça en se disant de quoi on aurait besoin. Et la deuxième étape importante, ça a été d'aller sur le terrain. Donc là, c'est Camille qui a commencé à rayonner depuis Hong Kong et qui est allée voir des usines. Elle m'a impressionnée. Elle est allée toute seule en plein milieu de la Chine. Elle a même essayé d'apprendre le chinois. Enfin, bref, il nous est arrivé pas mal d'aventures assez dingues et on en rigole maintenant. Mais c'est vrai que sur le coup, on avait pu avoir un petit peu peur. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on rencontre les usines pour être proche de ceux qui font. Et comprendre vraiment quels étaient leurs enjeux, enjeux qui sont très différents en fonction de si on parle à un fermier, un filateur, un tisseur, un teinturier ou un manufactureur. Et donc, on s'est vraiment dit, il faut qu'on s'intéresse à ces personnes-là qui sont souvent pas mises en valeur. Les marges dans l'industrie, on sait que c'est les marques qui les font. Hein. En tout cas, c'est pas ceux qui font les plus grosses marges quand on pense à un filateur, un fermier. Et donc, on est allé passer du temps auprès de ces différents métiers. Voilà, on a ramassé 10 kilos de coton en plein cagnard et on s'est rendu compte de la difficulté, à quel point ça faisait mal au dos et donc les risques liés à tous ces métiers-là. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé en 2018, le 1er juin 2018, officiellement Fairly Made. Et donc au démarrage, on proposait aux marques de produire leurs vêtements à partir de matières biologiques et recyclées et via un réseau d'usines engagées sur le plan social et environnemental. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure, qu'on a assez rapidement eu nos premiers clients. Et c'est vrai qu'au démarrage, une de nos peurs, c'était de se dire, est-ce qu'on va réussir à avoir des clients? C'est-à-dire que on était assez persuadés que l'industrie avait besoin d'acteurs tiers pour faciliter cette transition-là, expliquer les enjeux, les impacts et mettre en place des solutions. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est assez vite lancé, assez rapidement. On est allé voir des marques. Donc, c'est-à-dire que moi, je travaillais encore chez Another Stories et on a commencé à aller voir des marques en leur disant ce qu'on vous propose. Il se trouve qu'on s'est pris pas mal de portes au début. Il faut jamais s'avouer vaincu si on est persuadé de ce qu'on propose.
Et quand vous vous prenez des portes, comme tu nous le décris, est-ce que vous doutez?
On avait le doute de se dire, mais en fait, finalement, est-ce que ça va peut-être pas plaire aux marques? Est-ce qu'on va pas être crédible? Est-ce que finalement, elles vont pas spécialement aimer les vêtements, la petite collection qu'on avait développée? Parce que pour les inspirer, on avait développé une collection à partir de ces matières biosourcées et via nos usines. Et en fait, assez rapidement, bah, on a eu comme... premier client, ma grand-mère, hein, forcément, dont j'ai parlé au début, qui d'ailleurs veut relancer une commande avec nous, donc voilà, comme quoi. Et donc, voilà, ça a été notre premier client au démarrage. Après, ça a été le cousin de Camille, qui avait une pharmacie. Enfin, donc, ça a été pas mal de réseaux proches. Et on a accéléré les choses après, grâce aux Galeries Lafayette, qui ont été notre première commande officielle. Puis Balzac Paris, et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vouloir évidemment trouver des solutions pour améliorer l'impact de l'industrie, et que les marques étaient à la recherche de solutions plus facilitantes pour leurs équipes.
Est-ce que tu peux nous parler du rôle de vos proches et de vos connaissances, qui a donc été essentiel dans cette création d'entreprise ?
C'est ça, le rôle des proches, du réseau. Premier réseau, premier cercle de nos premiers jobs, et maintenant le rôle de l'équipe. On en parle souvent, mais c'est vrai que on a vraiment des équipes entre guillemets, ce qu'on appelle des équipes pépites, mais des gens qui partagent nos valeurs, qui s'investissent énormément et qu'on implique de plus en plus dans la stratégie. Et voilà, en qui on a une grande confiance et sans qui on n'en serait évidemment pas là aujourd'hui.
J'imagine que tu consacres beaucoup de temps à cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Comment réussis-tu à créer ton équilibre ?
En effet, c'est assez prenant, c'est-à-dire que c'est pas que nous qui sommes impliqués, mais c'est tous nos cercles. Nos cercles à la fois familiaux, amicaux. Et là, en plus, il se trouve qu'on a un groupe d'amis en commun avec Camille. Mais donc en fait tout le monde est embarqué sur ce bateau-là. Et ce qui est génial, c'est que on arrive aussi à partager nos idées, partager des valeurs et se nourrir aussi de tous ceux qui nous entourent. Donc c'est assez vertueux. Et c'est vrai qu'après c'est très prenant. Mais comme on s'éclate, c'est au quotidien, c'est un vrai plaisir de venir travailler. Et encore une fois, c'est aussi grâce à toutes nos équipes en qui on a confiance, qui ramènent des super bonnes idées et qui voilà, participe complètement à la réussite de notre aventure.
Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 18. Tu as l'air d'être épanouie. En quoi ce projet reflète ce que tu es ?
Alors, bonne question. C'est un projet, je dirais, c'est basé sur l'amitié au démarrage. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait absolument en sorte que ça réussisse. C'est-à-dire que c'est aussi notre histoire d'amitié. Alors, je dirais pas du tout qui en dépend, hein, mais ça a été au début aussi une aventure qui a fonctionné grâce à ça. Et donc, c'est un projet qu'on a construit en accord avec nos valeurs. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Dès le démarrage, on a défini les valeurs de ce projet, donc qui sont rigueur, transparence et bienveillance. Et donc, on s'applique ces valeurs dans tout ce qu'on entreprend, donc à la fois sur le recrutement, sur les nouveaux projets qu'on met en place. Et donc voilà, c'est des valeurs qui nous drive sur le déploiement de l'équipe et de l'aventure.
La plus grande leçon que tu tires de cette aventure ?
De bien s'entourer, donc à la fois dans le choix de son associé et dans le choix de nos employés, de nos collaborateurs. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une des raisons de la réussite. Et puis de faire en sorte aussi, c'est ça qui est génial dans cette aventure entrepreneuriale, c'est grâce au fait d'être entrepreneur, on peut rencontrer beaucoup de monde. Il faut vraiment se nourrir des parcours de chacun et se nourrir des feedbacks de chacun. Donc, on essaye de le faire un maximum. Et c'est vrai que c'est toujours très enrichissant de partager, d'avoir les retours aussi des parcours des autres.
Un conseil pour celles qui ne trouvent pas encore le pouvoir d'oser ?
De tester à petite échelle, puis de voir si ça fonctionne. C'est un peu la technique test and learn. Mais c'est vrai que les choses se construisent petit à petit. C'est se dire que, quoi qu'il arrive, ce sera toujours une bonne aventure. Et donc, d'essayer un maximum de rencontrer, de partager des expériences. Et avec du recul, on ne pourra jamais regretter le fait d'avoir voulu tenter une nouvelle expérience. Donc, ce sera toujours sans regret.
Et si c'était à refaire ?
Je pense que je ne changerais rien. Si c'était à refaire avec le recul, en fait, il y a 4 ans, quand on a lancé la boîte, On n'aurait absolument pas imaginé ce qu'est la boîte aujourd'hui. Donc, ce qui est super beau dans cette aventure aussi, c'est que on ne peut pas prévoir là où on sera dans 5 ans. Bon, même si on fait des business plans et et on met en avant une histoire auprès d'investisseurs, mais on sait jamais ce qui peut nous arriver. Et c'est ça aussi qui reste génial, c'est que l'aventure, il y a toujours une part de mystère.
Merci beaucoup, Laure, pour cet échange.
Merci à toi. Merci à vous tous.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Pouvoir d'oser. Nous espérons que le témoignage de Laure vous aura donné envie de suivre votre intuition entrepreneuriale. Le Pouvoir d'oser est un podcast de la marque Grain de Malice. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à le partager et à suivre nos prochains épisodes.